Merci beaucoup, hein, Marie, pour cette présentation. Je ne sais pas si je suis le centre, mais comme chez Barthes, le centre est toujours un peu vide. Je ne sais pas si je serai vide ou plein. En tous les cas, je vais essayer d'être à la hauteur de la présentation que tu as faite. Hein. Je vous remercie vraiment tous les deux, très sincèrement, de m'avoir invité, parce que je suis très heureux que ce séminaire ait repris après une petite période de jachère, hein, qui a été due au Covid et puis ensuite peut-être à d'autres, un peu de fatigue aussi. Donc vous allez le relancer avec votre énergie et c'est très bien. Et je suis très content d'être le premier à intervenir dans ce nouveau cadre, hein, qui est auquel je tiens beaucoup et je vous remercie d'être là pour le faire vivre. Alors avec ces remerciements, je le disais en préparant ma communication, m'était revenu à l'idée une phrase de Diderot que Barthes cite dans Comment vivre ensemble. Voici la phrase de Diderot : vous savez bien comme on aime à parler de ce qu'on vient d'apprendre. Alors moi, je vous dirais, vous savez bien comment on aime à parler de ce qu'on a fait, mais en l'occurrence, ce n'est pas ce que je viens d'apprendre, puisque ce dont je vais vous parler, c'est un travail d'une dizaine d'années, et je vais faire un petit peu dans l'hyperbole, vous savez, un peu comme si je faisais de la publicité. Ce gros dictionnaire, eh bien, c'est un peu une grosse œuvre, je ne dis pas une œuvre de fin de vie, une œuvre de clôture, qui clôture quelque chose, mais en tous les cas, une étape importante. Il est paru en septembre 2024, après une dizaine d'années de travail, ce qui est quand même très long, même avec... Enfin, pas forcément très dense le travail, mais enfin, 10 ans de travail, presque 1000 pages, 336 entrées, plus de 75 collaborateurs. Il y a un petit côté hyperbolique, hein, que je voulais saluer malgré tout, qui, d'une manière un petit peu immodeste. Ce qui est aussi hyperbolique, c'est le prix, qui fait que l'ouvrage est malheureusement réservé à des bibliothèques. Alors si votre bibliothèque de recherche ne l'a pas encore acquis, voilà une bonne action à faire dès lundi matin, hein, pour essayer de le diffuser. Quelques chiffres, le premier tirage était de 220 exemplaires. Ça peut paraître terriblement modeste, hein, 220 exemplaires qui ont tous été écoulés d'une manière ou d'une autre. Et un nouveau tirage de 220 exemplaires vient d'être tiré, enfin d'être fait. Et peut-être à terme, il y aura, on l'espère, un dictionnaire en livre de poche, ce qui le rendra quand même plus accessible aux étudiants et à tous ceux qui ne sont pas encore de vieux et riches professeurs. La réception était plutôt bonne dans l'ensemble, hein, mais un dictionnaire, on ne peut pas en faire une réception tout de suite, il faut des années avant de se l'être approprié. La réception critique est un peu timide, il y a 4-5 articles pour l'instant. Et je suis très heureux d'avoir eu un excellent article dans le Times Literary Supplement, hein, le TLS, hein, très élogieux, et ça fait plaisir. On est vraiment encouragé, non pas à continuer ou à refaire, mais à continuer à faire de la recherche. Alors je crois que pour faire un dictionnaire Barthes, il y avait au moins trois bonnes raisons. La première raison, c'est Barthes lui-même et sa notoriété. Je crois que Barthes est de tous les grands intellectuels français celui qui n'a, pour ainsi dire, jamais connu de purgatoire. Il y a toujours eu un lectorat pour Barthes, pour au moins un Barthes. Je dirais, il y a toujours un Barthes qui est lu par quelqu'un quelque part, hein, que ce soit en France, à l'étranger, avec des fortunes qui fluctuent, mais il n'y a jamais eu un tarissement des lecteurs de Barthes. Donc, l'importance de Barthes imposerait presque un dictionnaire. Deuxième raison, me semble-t-il, c'est la mode des dictionnaires. Il ne s'agit pas d'être constamment à la mode, mais les dictionnaires sont à la mode depuis la fin du XXe siècle. On aurait pu croire qu'ils allaient être, rendus caduques par le numérique, par toutes les informations qu'on peut avoir sur l'ordinateur. Il n'en est rien. Et je dirais qu'il y a une sorte de résistance que manifeste le dictionnaire, résistance de l'imprimer d'abord, même s'il a une version électronique, hein, c'est bien d'avoir un manuel dans la main, hein, je crois que le mot manuel, Barthes l'aimait beaucoup et il renvoie tout à fait au dictionnaire. C'est aussi un moyen de faire de la résistance pour la figure de l'auteur. Alors, il y a les dictionnaires sur Paris, il y a les dictionnaires sur des lieux, mais la plupart des dictionnaires sont sur auteur et ça consacre l'auteur et ça le fait exister comme tel. Et puis il y a aussi dans le dictionnaire un goût et un désir du savoir. Un savoir qui parfois est un peu encyclopédique, et un savoir qui est à la fois pensé de façon continue et discontinue. On a une totalité, mais une totalité fragmentée, discontinue plutôt, à laquelle on peut accéder comme on veut et que l'on peut s'approprier selon son propre désir. Donc, cette mode des dictionnaires, qui n'est pas vraiment une mode, mais qui s'enracine peut-être dans un désir profond de la recherche actuelle, me paraissait une très bonne raison aussi pour entreprendre cette tâche. Je m'occupe, chez Champion, des dictionnaires du XXe et du XXIe siècle. Alors, en voici quelques-uns qui sont en cours. Il y a encore de grands noms qui n'ont pas donné lieu à un dictionnaire. Céline, un dictionnaire Céline qui se constitue. Cocteau, Pérec, c'est un des derniers installés, et puis des francophones, Kateb Yassine, le grand écrivain algérien, et Vera Rehn, enfin, qui est presque français, mais il est belge, hein, et donc c'est un écrivain qui va enrichir, disons, du côté des francophonies. Je lance un appel. Si vous avez un auteur qui vous est cher, sur lequel vous voulez, au XXe siècle, ou XXIe, écrire un dictionnaire, prenez contact avec moi et vous aurez le meilleur accueil qui soit. Donc, ça, c'était une très, très bonne raison hein, d'établir un dictionnaire sur Barthes. C'est l'importance de ce phénomène qu'on appelle le dictionnaire. Et puis, la troisième raison, c'est la raison essentielle, c'est que le dictionnaire est un objet fondamentalement barthésien. Du moins, il y a des atomes crochus extrêmement forts entre le dictionnaire comme forme et l'état d'esprit et tout ce que Barthes a pu écrire. Alors, ce qu'il a pu écrire, c'est un très bel article d'abord, qui paraît en 1980, c'est la préface au dictionnaire Hachette. Très beau texte, hein, assez peu connu, et qui est un texte donc, de la fin de sa vie, hein, même s'il ne le savait pas, et donc qui montre bien la permanence de cette obsession du dictionnaire chez lui. On trouve de nombreuses allusions ici ou là, et puis, même si ce ne sont pas des dictionnaires, le lexique de l'auteur et Roland Barthes par Roland Barthes entretiennent une relation avec la forme du dictionnaire, mots-clés, ordre alphabétique, etc., etc. Je sais bien que le lexique et le Roland Barthes par Roland Barthes ne sont pas, à proprement parler, des dictionnaires. Donc, d'une certaine manière, le dictionnaire est un objet cher à Barthes, comme manuel, et aussi comme un moyen de mettre en scène, de réfléchir aux relations souvent ambivalentes que Barthes entretient avec la langue, avec la langue française en particulier, qui est liée au pouvoir. Hein. Nous savons aussi que la langue peut être fasciste. Hein. Nous connaissons cette fameuse phrase depuis la leçon inaugurale au Collège de France. La langue est un lieu de pouvoir, comme le dictionnaire. Le dictionnaire établit une norme, et un dictionnaire est toujours beaucoup plus pauvre que la langue à laquelle il se réfère. Et si on additionnait côte à côte tous les dictionnaires du français actuel, il serait infiniment moins riche que la pratique de la langue française dans le monde entier. Donc c'est un lieu de pouvoir, mais comme la langue, c'est aussi un lieu de libération. Et je crois que pour Barthes, le dictionnaire est important pour cela, parce qu'il met en valeur le mot avant les mots. Je crois que c'est important. Un dictionnaire, c'est d'abord une succession de mots qui sont reliés par l'ordre le plus lâche qui soit et le plus facile à manier, qui est l'ordre alphabétique. Donc, le dictionnaire est une structure, mais une structure qui met en évidence le mot. Et Barthes manifeste toute sa carrière, vous le savez bien, un goût certain pour le mot solitaire, le mot tout seul, le mot qui n'a pas encore été pris en charge par une structure, ne serait-ce qu'une structure phrastique. Je donne quelques exemples en dehors du dictionnaire. C'est l'importance qu'il accorde à la notion de mot-valeur. Le mot-valeur que l'on investit très fortement, hein, et c'est un mot qui est investi, ce n'est pas une phrase au point de départ. Je vous renvoie également au degré zéro de l'écriture, le mot poétique, qui est un mot solitaire, parfois même un peu effrayant, hein, qui existe par lui-même dans la poésie contemporaine, du moins la poésie telle que Barthes la conçoit. Je pense également au mot coup de fouet. Le mot coup de fouet qui apparaît dans le diplôme d'études supérieures, invocation et incantation dans la tragédie grecque, et qui est ce mot qui est capable d'agir sur le monde. Mot coup de fouet que Barthes reprendra dans son premier cours au Collège de France, Comment vivre ensemble, hein, il y a une allusion encore à ce mot coup de fouet. Donc il y a une multitude d'exemples de ce mot solitaire. Le dernier exemple que je vais vous donner est tiré du lexique d'auteur. À un premier degré, glossaire, c'est le mot qui se conquiert sur le syntagme, le mot dans sa brillance erratique, dans son contour fétiche. Ben, le mot tout seul, mais le mot ne reste pas tout le temps tout seul. Ce serait un peu court, manifestement, de ne parler que par mots séparés. Et le mot erratique, j'aime bien, je sais qu'il existe en grammaire des syntagmes erratiques, le mot montre bien que le mot erratique montre bien que le mot, en général, voyage, et qu'il va s'acoquiner, si je puis dire, hein, avec d'autres mots. Et toute la question qui reste pour Barthes et qui est fondamentale, c'est de savoir dans quelle structure on va faire figurer ce mot fétiche, ce mot valeur qu'il aime tant. Alors, bien sûr, il y a le dictionnaire, hein, qui est un réceptacle magnifique pour des mots valeurs. Et voici ce que dit Barthes encore dans le lexique d'auteur. Le mot dans son virtuel contextionnel, sa capacité de réseau, son affectivité pour d'autres mots au-dessus des connexions de la syntaxe, de la langue, une autre logique, laquelle peut se substituer à celle de la phrase. Donc, le mot solitaire n'a pas une longue vie à lui tout seul, il faut qu'il prenne place dans un ensemble. Mais lequel ? un ensemble qui serait hors phrase. Penser un mot hors phrase, c'est le dictionnaire d'une certaine manière. Et on peut trouver chez Bach toute une série d'éléments, métaphoriques parfois, qui essaient de penser une structure du mot solitaire, une solidarité du mot avec d'autres, mais en dehors de cette structure qu'on appelle la grammaire, le syntagme et la syntaxe. J'ai eu cette idée, en préparant d'ailleurs une autre communication sur Sardoui. Vous savez, quand Barthes est dans un bar, à moitié endormi, il entend les bruits qui tournent autour de lui, et il fait allusion d'ailleurs à Severo Sardoui et à la description que fait l'écrivain cubain d'une place à Tanger. Et voici ce que dit Barthes dans sa propre attitude, hein, dans ce bar. « En moi, passaient les mots, les menus syntagmes, les bouts de formules, et aucune phrase ne se formait, comme si c'eût été la loi de ce langage-là. » Donc, le dictionnaire, un bar où on somnole sont des équivalents. L'un peut être la métaphore de l'autre. Hein. On capte des choses comme ça, mais en deçà de la phrase. Cela dit, comme très souvent chez Barthes, il a la position théorique et il a la pratique. En théorie, on peut rêvasser ou rêver, ce serait mieux, rêver à une structure hors phrase. Dans les faits, heureusement d'ailleurs, sinon on ne serait pas écrivain, la phrase est quand même bien pratique pour mettre les mots en ordre. Donc il faut, à l'intérieur de la phrase, penser quelque chose qui soit une structure non contraignante. Hein, et Barthes, finalement, va faire toute son écriture, tout son talent, ce sera de penser des phrases. De penser des phrases, je pense que Stéphane Chaudier nous en parlera à la fin de l'année, penser des phrases qui mettent le mot solitaire en valeur, ne l'écrase pas, mais ne le contraigne pas d'une manière qui serait trop dogmatique, en quelque sorte. Il y a chez Barthes, on le sait, une idolâtrie pour la phrase. Hein, cette phrase apparaît dans « Délibération ». On pourrait citer son analyse extraordinaire des 7 phrases tirées de Bouvard et Pécuchet. Donc il y a chez lui un goût de la phrase qui est à la fois très original. Il va s'approprier la phrase. La phrase barthésienne n'est pas la phrase de tout le monde. Elle a été analysée hein, déjà par Julien Piat, par exemple. Mais en même temps, ce goût de la phrase ne tombe pas du ciel. Il est très historique. Et je dirais qu'il est lié à la formation scolaire. Après tout, qu'est-ce qu'on apprenait aux petits Français? Qu'est-ce qu'on leur apprend encore? Sujet, verbe, complément. C'est le fondement même de la grammaire. Hein. Et Barthes se situe dans cette ère-là, et il se vante dans le fichier vert, ce qui est faux d'ailleurs, de n'avoir jamais utilisé le phrase nominale. Vous savez, ces phrases nominales que nos étudiants qui essaient d'écrire utilisent à foison parce qu'ils ont le sentiment de savoir écrire en faisant du sous-duras, généralement. Hein. Ce sont des pratiques estudiantines qu'on rencontre très souvent. Or, Barthes se réfère vraiment à cette espèce de respect de la phrase sujet, verbe, complément. Et au-delà de cela, la phrase renvoie à la linguistique saussurienne, qui est une linguistique de la phrase, de toute façon. Hein. Donc il y a à la fois cette tradition grammaticale française, cette tradition qui nous vient de Saussure, qui va fonder le structuralisme, qui font que la phrase est un objet fétiche chez Barthes, qui s'inscrit à la fois dans ses propres pratiques, et avec sa propre originalité, que je ne vais pas traiter maintenant, ce n'est pas mon sujet, mais qui en même temps s'inscrit dans un contexte extrêmement français, je dirais, et structuraliste. Et on sait bien que le structuralisme linguistique est plutôt d'origine française. Bref, toute l'affaire, c'est de garder la puissance, la fraîcheur du mot dans une structure qui sera celle de la phrase sans que l'un ne pâtisse de l'autre. Et Barthes exemplifie ça de façon magnifique hein, dans son cours sur la préparation du roman où il montre comment on passe de la notula, le mot que l'on note sur le carnet, à la nota, la phrase, et l'écriture commence véritablement avec la phrase. Donc, le dictionnaire, qui est une collection de mots solitaires mais reliés entre eux, renvoie bien à une question barthésienne, à une des grandes questions que Barthes pose au langage. La seconde grande question que le dictionnaire permet d'exemplifier chez Barthes, ce n'est pas la relation des mots entre eux, c'est la relation fondamentale des mots et des choses qui fait que la littérature, que les mots, que la langue, parce qu'elle est fondamentalement référentielle, eh bien, apprise sur le réel, est prise dans un discours qui est un discours qui a un imaginaire de vérité, collé ou pas à la réalité que l'on désigne. Et c'est encore le dictionnaire qui permet de penser la relation des mots et des choses. Barthes distingue dictionnaire et encyclopédie. Je lis le texte. On rassemble des mots, on en donne la définition, c'est un dictionnaire. On rassemble des choses, nommées bien sûr, on en donne la description, c'est une encyclopédie. Les encyclopédies renvoient aux choses, les dictionnaires renvoient aux mots. Ça peut se discuter, et en tous les cas, je trouve que c'est discutable, cette distinction, parce que, en fait, je crois qu'un dictionnaire est à la fois un ouvrage qui porte sur les mots et un ouvrage qui porte sur les choses, puisqu'il n'y a pas de mots sans les choses et de choses sans les mots. C'est un peu expéditif, mais je pense que c'est juste. Donc, cette relation complexe des mots et des choses qui a été, qui a traversé toute la modernité, je dirais même toute la littérature mondiale, consiste à savoir à quelle distance on peut se tenir, enfin, il faut faire se tenir les mots et les choses, et à quel crédit on peut accorder aux mots pour dire les choses. Et on oscille sans cesse de l'optimisme au pessimisme, de la fausse monnaie de Gide, voilà, au discours de vérité hein, que l'on peut tenir en utilisant correctement les mots. Et Barthes lui-même est à la fois très cratilien, il le dit, tout écrivain est cratilien. Hein. Tout écrivain croit que les mots disent les choses, en quelque sorte. Et inversement, Barthes sort de cette illusion, peut-être, pour établir le maximum de distance et noter le maximum de distance entre les mots et les choses. Et l'on sait qu'il n'aimait pas les arts trop réalistes, les arts trop mimétiques. Par exemple, au théâtre, il aimait les acteurs qui jouent un peu faux, ou génialement faux, comme Louis Jouvet, et pas du tout des comédiens, comme on en voit beaucoup de nos jours, qui jouent comme dans la vie. Barthes aimait, n'aimait pas le réalisme, disons, immédiat. Bon, c'est à la fois l'homme du c'est ça, c'est l'homme du moment de vérité, et c'est aussi l'homme de la plus grande distance hein, entre les mots et les choses, et toute son œuvre oscille entre cela. C'est une question qu'on peut poser à partir du dictionnaire, qui est un outil qui pense à la fois et de façon consubstantielle les mots et les choses. Le meilleur moyen de sortir de l'hésitation, c'est l'opératoire. Et le dictionnaire, précisément, c'est un objet qui ouvre sur l'opératoire. Voici ce que dit Barthes. Les dictionnaires sont utiles et sont maniables, parce que précisément, à un certain moment, nous arrêtons ce procès infini par intrusion de l'opératoire. C'est-à-dire que simplement, nous nous arrêtons à une définition et nous nous en servons pour des tâches de type pratique ou opératoire. Autrement dit, les mots près ou loin des choses, les mots solitaires ou collectifs, eh bien, il faut en faire quelque chose et il faut faire confiance au pouvoir du mot. Et toute l'œuvre de Barthes fantasme le pouvoir du mot entre optimisme et pessimisme. Le DES, hein, le diplôme d'études supérieures, évocation et incantation sur la tragédie grecque, porte sur le pouvoir du mot et le pouvoir extraordinaire du mot, puisqu'il peut s'adresser aux morts et les faire revenir au-delà de la mort. Bah, quel pouvoir extraordinaire que celui des mots. Alors bien sûr, c'est dans le cadre de la tragédie, mais il me semble que cette obsession de faire revenir les morts, par exemple, va caractériser Barthes toute sa vie, et c'est le comble, bien sûr, du pouvoir des mots, hein, quand ils peuvent aller au-delà de la mort pour faire revenir la vie. Donc, voyez-vous, le dictionnaire permet de poser les grandes questions barthésiennes à l'égard du langage. Il y en aurait d'autres, hein, j'y suis allé très rapidement. Et donc, il y a une excellente raison de faire un dictionnaire Barthes, parce que Barthes est un auteur qui compte, parce que le dictionnaire est utile et parce que le dictionnaire est un objet profondément barthésien. Mais précisément, ça m'a posé une immense difficulté. C'est que quand un auteur pratique intensément un genre ou est fasciné par un genre, on risque soi-même d'être fasciné par sa propre fascination. Or, tout travail de recherche implique une distance, une prise de recul. Et donc, ce que je devais faire avec tous mes camarades, ce n'est pas un dictionnaire de Barthes, il aurait le fait lui-même s'il en avait voulu, mais un dictionnaire sur Barthes. Et ce passage de « de » à « sur » implique une distance. Vous savez, j'aime beaucoup citer l'apologue des porcs épiques que Barthes analyse dans le discours amoureux. Les porcs, il l'emprunte à Schopenhauer, à Freud, qui l'emprunte à Schopenhauer. Les porcs épiques ont froid. Donc, ils se rapprochent, mais ils se piquent, ils saignent. Donc, ils s'écartent, etc. Et Barthes dit, le petit manège, c'est ça, quand ils eurent trouvé la distance convenable. Voilà, trouver la distance convenable, ça se fait de l'art de vivre, l'art de faire de la recherche, l'art d'écrire, l'art de tout. Hein. Voilà, trouver dans la vie la distance convenable. La distance sociale, hein, ce qu'on nous apprend quand on a une vie sociable, bien évidemment. Or, cette histoire des porcs épiques m'a hanté. Comment fallait-il penser à un dictionnaire qui respecte l'auteur, mais qui ne soit pas une sorte de projection des fantasmes barthésiens eux-mêmes? Et je dirais, alors ça, on pourrait dire ça de n'importe quel écrivain. Hein. Travailler sur un auteur, c'est prendre une distance. Mais c'est tout particulièrement embêtant avec Barthes, parce que c'est un auteur du métalangage, qui ne cesse de se commenter lui-même. Un de ses derniers entretiens, après Roland Barthes par Roland Barthes, s'intitule « Barthes, puissance 3 ». Puissance 1, l'œuvre de Barthes. Puissance 2, Roland Barthes par Roland Barthes. Puissance 3, l'entretien qu'il a sur le livre qu'il vient d'écrire. Et on pourrait ajouter le lexique de l'auteur, tous les fichiers, etc., etc. Donc Barthes est un homme qui ne cesse de commenter son œuvre, ce qui m'a toujours posé beaucoup de problèmes, parce que je me suis demandé ce que ça signifiait. j'y vois un contrôle de lui-même. Hein. J'y vois une stratégie de contrôle du sens de son œuvre, tout en sachant bien sûr que le lecteur fera ce qu'il fera. Et d'une certaine manière, Barthes, très rusé sans doute, hein, a produit au début une critique, je ne nommerai personne, hein, a produit une critique qui était trop mimétique. Les premiers barthésiens faisaient du Barthes. Alors, je ne donne pas de nom, hein, dans les années 70, on les a peut-être un peu oubliés. Et je dirais que le premier grand ouvrage qui a su imposer une distance par rapport à Barthes, c'est Philippe Roger, dans Roland Barthes roman, 1986. Et là, il a vraiment imposé cette distance pour faire un travail sur Barthes qui ne soit pas aspiré, aimanté par la puissance stylistique de Barthes qui oblige à faire du Barthes quand on commande Barthes. On ne peut pas faire du Barthes quand on commande Barthes, et les bons Duraciens... J'aime beaucoup Marguerite Duras, hein, et les bons Duraciens sont ceux précisément qui ne font pas du Duras, hein, précisément, sinon c'est voilà, vous avez compris. Donc, la grande affaire, si je puis dire, la mienne, ça a été de ne pas me laisser aspirer, aimanter par tout ce que Barthes dit du dictionnaire. Donc, ni paraphrase, ni glose. Hein, la paraphrase ne se contente de répéter, la glose réinvente, et il faut donc naviguer entre les deux. Mais je me suis autorisé une pratique qui, elle, est un excès de fidélité, qui est la copie, cette copie qu'aime tant Bouvard et Pécuchet, et qui passe pour nous par la citation. Vous verrez, si vous consultez ce dictionnaire, il y a beaucoup de citations de Barthes. D'abord parce que ça remplit, hein, soyons un peu mesquins, hein, ça fait écrire plus rapidement les choses. Mais nous voulions entendre la voix de Barthes, par la voix de citation. Et précisément, il y avait la voix de Barthes et le commentaire que l'on pouvait en faire. Donc vous verrez, il y a énormément de passages entre guillemets, parce qu'il fallait donner la parole à Barthes et ne pas simplement le commenter de loin. Je tenais beaucoup à ce qu'il y ait des citations, et d'ailleurs tout le monde a parfaitement compris la consigne. Le grand principe, donc, c'était trouver la distance convenable, hein, d'autant plus qu'on a affaire à un auteur qui est extrêmement roué sur ce plan-là, je trouve. Et le deuxième grand pilier sur lequel est fondée la problématique de ma recherche, ça a été ce que j'appellerais, avec la citation du dernier fragment de Roland Barthes par Roland Barthes, le démon de la totalité. Tout dire, faire une somme, hein, pas théologique ni athéologique, mais une somme sur Barthes, en quelque sorte, hein, avec bien sûr l'immense illusion qu'il y a à vouloir tout dire, hein, c'est même pas forcément sain, mais il y a quand même cette obsession, toucher au plus grand nombre de domaines possibles. Alors je vais entrer maintenant un petit peu dans la cuisine du dictionnaire, après ces quelques préambules très généraux. Ce démon de la totalité, que j'assume pleinement, d'abord est passé par le choix des collaborateurs. Nous sommes, je crois, 76, ce qui est beaucoup trop. Hein, c'est une bêtise énorme que j'ai faite, parce que c'est d'une gestion terrible. Il n'y a aucun qui obéit au même moment que l'autre, les calendriers ne sont pas respectés, c'est trop. Et si vous devez me proposer un dictionnaire, je l'accueillerai bien volontiers et je vous conseillerai 10-15 collaborateurs, c'est bien suffisant. Hein. Et certains m'ont dit, c'est trop, 3, comme ça au moins on est chez nous, on sait à qui on a affaire. Ça veut dire beaucoup de travail aussi, 3. Hein. Donc 76, c'était considérable parce que je voulais, novice que j'étais, couvrir le maximum de gens, de spécialistes et surtout donner une dimension internationale à ce travail. Barthes est un auteur traduit dans toutes les langues, lu beaucoup en français dans le monde, avec un nombre considérable de spécialistes étrangers, et il était hors de question de s'enfermer dans le 5e arrondissement. Nous voulions absolument toucher le plus grand nombre possible de collaborateurs. Alors, quels sont les pays lauréats ? Il y en a deux, la Grande-Bretagne et le Brésil. La Belgique est bien représentée aussi, la petite Belgique, hein, est bien représentée aussi. Alors, pourquoi ? Je crois que c'est lié tout simplement à deux raisons. D'abord, l'actualité de Barthes dans ces pays-là. Hein. Les Brésiliens sont dans un nombre considérable. Hein. Nous avons une Brésilienne devant nous. Hein. Je crois qu'il doit y avoir une trentaine de spécialistes de Barthes au Brésil, ce qui est considérable pour un pays aussi grand que le Brésil. Il y a cette réalité-là, la vivacité de la recherche dans les pays envisagés. Et puis, il y a aussi le hasard des rencontres et des amitiés. Moi, je ne connais pas tout le monde, mais je confie la rédaction des entrées aux gens que je connais, bien évidemment. Donc, il y a une part d'aléatoire, mais ce n'est pas grave. Alors, l'Afrique est peu représentée. Et ce n'est pas que je n'ai pas d'affinité avec l'Afrique, mais il se trouvait que je connais peu de Barthésiens africains. Et la Chine, ce grand pays, hein, à peine peuplé, nous le savons bien, eh bien, est quasiment pas représenté parce que c'est immaîtrisable pour moi, la production barthésienne en Chine. C'est une faiblesse. que j'assume pleinement, mais je n'ai pas réussi à maîtriser cet immense continent qu'est la Chine. Donc, il y a, ça m'a permis aussi de toucher le maximum de nationalités et de toucher le maximum de spécialistes, avec deux attitudes complémentaires. La première, c'était de confier toute une série d'articles à des spécialistes. Et je ne remercierai jamais assez Magdalena Marcignac, par exemple, hein, d'avoir accepté tous les articles sur la psychanalyse, qui demandent quand même une compétence que je n'avais pas, et je suis très heureux d'avoir pu compter sur elle. Mes remerciements vont aussi à Yue Zhuo, qui elle est chinoise, mais je la pense plutôt comme américaine, Yue Zhuo, qui, au pied levé, a accepté de prendre tous les articles sur le cinéma qui ont été abandonnés par le collaborateur qui m'a lâchement lâché hein, sur ce sujet-là. Je ne donnerai pas son nom, bien évidemment, vous l'avez compris. Donc, grâce à ces spécialistes, j'ai pu sauver la mise hein, et faire traiter des sujets délicats et qui demandent des compétences qui n'étaient pas les miennes. Inversement, certains spécialistes n'ont écrit qu'un seul article, mais c'est l'article de leur spécialité. Par exemple, Anne Simon, que nous connaissons bien, a écrit l'article « Animal ». Et Richard Lehmann, qui est un grand spécialiste de Twombly, a écrit l'article sur Twombly, il n'y en a qu'un seul, hein, eh bien, il lui est revenu. Je tenais beaucoup aussi, dans cette obsession de la totalité pour ce qui est des collaborateurs, toucher le maximum de jeunes chercheurs, jeunes doctorants ou de jeunes docteurs. Et en particulier, je vais citer le travail que j'ai fait en collaboration avec le regretté Jean-Louis Rivière, qui a constitué une équipe de ses étudiants à l'École normale supérieure pour écrire les articles sur le théâtre. Alors, il a travaillé avec ses étudiants, Jean-Louis Rivière, j'ai travaillé avec lui, mais je n'ai jamais rencontré ses étudiants, et comme il est décédé brutalement, sans me donner l'adresse des étudiants, je n'ai jamais pu contacter ses étudiants, leur envoyer des preuves. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu, donc j'ai corrigé les épreuves en respectant au maximum leur travail. En tous les cas, je les remercie hein, de s'être associés à cette belle entreprise. Voilà. Le démon de la totalité a touché les collaborateurs. J'ai fait cela de façon extrêmement rapide. Bien sûr, ce démon de la totalité a touché aussi Barthes et son œuvre. Alors, la vie est l'œuvre, comme on disait autrefois dans les manuels scolaires. Alors, la vie, c'est à la fois la vie familiale, la vie intellectuelle. Et il y a des entrées sur la famille, Henriette Barthes, bien évidemment, Michel Salzedo, des entrées sur les amis, il y a des entrées compagnons, Marty, ou alors tous ceux que je n'ai pas pu traiter, il y a une grande entrée amis qui permet de traiter tout le monde sans vexer personne. Entrée, bien sûr, aussi pour les grands intellectuels qui ont côtoyé Barthes ou qui l'ont inspiré, avec le fait pour eux, souvent, ils sont les amis. Kristeva figure à la fois, disons, dans la catégorie des amis que dans la catégorie des intellectuels. Mais au-delà de la vie, c'est bien sûr l'œuvre qui m'a passionné et que je voulais traiter dans son ensemble. Nous le savons bien, l'actualité de Barthes se rassemble plutôt de nos jours, en ce qui concerne les années 70 ou au contraire les années 50. Mythologie, hein, qui est vraiment lu et commenté, et les années 70. La période structuraliste, au sens le plus, le plus scientiste du terme, est un peu négligée de nos jours, et je ne voulais surtout pas la négliger. Et c'était écrit, Serge, je ne savais pas que tu serais là, mais je voulais te remercier publiquement, avec Samir Dabadir, d'avoir pris, et avec un appétit considérable, tous les articles concernant la sémiologie et la linguistique. Ça m'a bien arrangé, parce qu'il y avait peu d'amateurs pour les prendre, en quelque sorte. Hein, parce qu'en France, ils sont un peu passés de mode, et j'étais content que cela apparaisse. Au-delà des œuvres publiées, nous avons tenu à ouvrir sur les archives, hein, tu faisais allusion à cela tout à l'heure, Mathieu, les archives, les séminaires, hein, avec un ensemble d'articles d'entrée très intéressants de Claudia Amigo Pino, notre collègue brésilienne, et puis l'œuvre iconographique, les partitions, tout ce que Barthes a écrit a été choisi, n'a pas été négligé, nous voulions nous voulions leur consacrer une place. Et puis je tenais beaucoup à ce qu'une place soit faite à la réception de Barthes dans les différentes aires linguistiques. Alors la Chine, là encore, est malheureusement absente, c'est une grande faiblesse, mais les grandes langues sont traitées et les grandes réceptions, avec une distinction à travers les langues, comme une langue aussi internationale que l'anglais, entre le domaine américain, dont a traité Jonathan Keller, merci beaucoup, et le domaine britannique, qui est un peu différent, qu'a traité notre ami, hein, un grand barthésien anglais, comme Andy Staffan. Bref, j'ai essayé d'être le plus large possible, tout en sachant qu'on ne dirait jamais tout. Et la grande affaire, et c'est là où s'exprime le plus librement la liberté de l'éditeur, c'est dans le choix des entrées. Finalement, c'est là que se manifeste le plus la nécessité et le plaisir de prendre ses distances. Parce qu'il était hors de question que Barthes dicte lui-même les mots-clés que j'allais utiliser. La nécessité était absolument de prendre une indépendance par rapport à lui pour avoir véritablement une activité critique. Bien sûr, il faut tenir compte des mots-valeurs qu'il a sélectionnés. C'est la moindre des choses. Il faut tenir compte également des attentes du public. Il y a ce que l'appellerait le vraisemblable d'une époque. Et il faut également avoir le courage de son engagement, le mien bien sûr, mais aussi celui de chacun des collaborateurs qui pouvaient avoir envie de mettre en valeur tel ou tel aspect. Barthes a établi un glossaire, il a établi aussi des index. Or, il n'y a rien de plus troublant que les index de Barthes qui sont peu pratiques, très étranges, déroutants. On n'y trouve jamais le mot qu'on cherche. Hein. Et je trouve qu'il y aurait un article ou un livre à écrire sur les index chez Barthes. Hein. Est-ce que c'est de la ruse? Est-ce que c'est de la désinvolture? Je ne pense pas. Pourquoi est-ce que ces index sont si peu utiles, en quelque sorte, si déroutants? Donc ça signifie que l'usage qu'il a des mots n'est pas forcément celui qui s'impose à nous. Donc je suis parti de cette idée force qui me donnait la possibilité, qui me donnait de l'air, en quelque sorte, hein, pour conduire cette entreprise. Je vous donne un exemple, l'énumération des mots-clés au début de Roland Barthes par Roland Barthes. Vous vous en souvenez? Actif, réactif, adjectif, l'aise, le démon de l'analogie. Eh bien, vous ne retrouverez pas ces entrées, ces mots sous la forme d'une entrée. Il n'y a qu'un seul mot qui va donner lieu à une entrée, c'est adjectif. Les autres, actif, réactif, l'aise, le démon de l'analogie, se retrouveront, bien évidemment, mais ils se retrouveront dans d'autres mots que nous avons choisis par ailleurs. Alors, le grand principe dans le choix des entrées, outre le fait de respecter et la volonté de Barthes avec liberté, le désir des lecteurs et notre propre désir à nous, ça a été de donner la priorité au livre. Au commencement était le livre, c'est la référence première. Et c'est l'entrée à partir des livres qui va dicter les autres entrées possibles. Les livres publiés par Barthes ou non, mais prévus ou préparés à la publication. Par exemple, Incident et Soirée de Paris, que Barthes n'a pas publié, mais qu'il avait mis au propre. J'ai considéré que c'était un travail de Barthes lui-même, et donc je les ai considérés comme des livres et ils ont droit à une entrée spécifique. En revanche, vous savez, dans les années 80, ces livres si utiles qu'a organisé François Valle, Le bruissement de la langue, L'aventure sémiologique, L'objet et l'obtus, qui sont des collages faits par Valle, enfin des collages, qui sont des recueils faits par Valle, ne sont pas des livres de Barthes. Donc je ne les ai pas mis comme... Enfin, aucun d'eux ne correspond à une entrée. Mais je ne les ai pas négligés. Il y a une entrée Valle, François Valle, où je parle de ces livres, si vous voulez. Hein. Voilà, c'est un choix que j'ai fait. Je ne voulais pas les mettre sur le même plan. Pas par mépris. Hein. Dieu sait, j'étais étudiant de thèse à ce moment-là. Dieu sait si j'étais heureux d'avoir ces livres-là. Ils ont été utiles à beaucoup de gens. Donc je leur rends hommage, mais ils ne donnent pas lieu à une entrée. Figurez-vous, il n'y a pas d'entrée Solers. Pourquoi? Parce qu'il y a une entrée Solers écrivain. Et que c'est donc à Solers écrivain que je parle de Philippe Solers. Bien évidemment, je n'aurais pas pu négliger Solaire, ça aurait été une faute professionnelle. Autre critère, outre le livre, eh bien, l'attente du public. Vous comprenez bien qu'on ne pouvait pas ne pas se passer d'une entrée La mort de l'auteur. Pas possible. Une entrée L'effet de réel. J'aime pas ce texte, mais c'est pas grave. L'effet de réel, c'est une entrée qu'il a fallu noter. Et puis, alors la Chine, hein, entrée qu'a rédigée Anne, hein, Herbert Pierrot, il était bien évident qu'il fallait qu'il y ait une entrée alors la Chine. Hein. Il n'y a pas d'entrée Chine, d'ailleurs. Hein. Il y a une entrée carnet de voyage en Chine. Il y a une entrée alors la Chine. Ça suffisait. Donc, bien sûr, il fallait que ces entrées-là soient représentées. Mais il y a aussi des entrées qui ne s'imposaient pas et que nous avons choisies par goût. La Rochefoucauld, par exemple. Barthes n'aimait pas son article sur La Rochefoucauld, il le dit dans son fichier. Moi, je l'aime beaucoup. J'ai tenu à ce qu'il y soit, ainsi que celui de La Brière, ça se discute. Hein, tout se discute, de toute façon. Et j'ai tenu à ce qu'il y soit, parce que je trouvais ces réflexions importantes. À côté de ça, il y a des articles très importants qui ne figurent pas comme entrée. Je vais vous expliquer pourquoi. L'article Délibération, ce très bel article sur le journal intime, ne figure pas comme entrée. Parce qu'il figure dans une entrée plus générale sur le journal intime. Parce que c'était le lieu de fédérer les deux ou trois textes que Barthes écrit sur le journal intime. Même chose, une conférence que nous aimons tous, hein, « Longtemps, je me suis couché de bonne heure », ne figure pas comme entrée. Elle aurait pu figurer comme entrée. Hein, j'ai hésité. On biffe et on remet. C'est comme ça, hein, continuellement. elle figure, l'article figure longuement, la conférence, dans un article consacré à Proust, bien évidemment. Alors, ce sont des choix qui sont discutables, mais bon, cela ne, j'accepterai toute critique, bien évidemment. Les notions les plus importantes, signifiance, sémiologie, théâtre, sont représentées, mais je tenais aussi à faire apparaître des entrées qui ne sont moins évidentes. Amis, enfants. Je vous laisse qu'il y a une entrée enfant chez Barthes. Hein. Elle n'est pas évidente, mais il y a un fil conducteur que l'on peut tirer et une entrée drague. Hein, je crois que l'auteur est ici. Hein, une entrée drague qui me paraît un mot-clé hein, au sens propre et au sens figuré dans l'œuvre de Barthes. Bon, le principe de chaque entrée, finalement, ça a été d'être conçu comme un petit article avec le maximum d'informations, mais un souci constant de problématisation. Ne soyons pas trop factuels, il faut être factuel. Hein. Just the facts, madame, c'est dans un film américain. Hein. Il faut des faits, mais il faut aussi un recul critique et une problématique. Je voudrais saluer, par exemple, le travail qu'a effectué Jérémy Majorel, professeur à Nanterre maintenant, qui a fait une entrée sur les essais critiques. Et cette entrée est très problématisée. Il a lu les essais critiques à partir de la mélancolie de Barthes. Idée qui ne m'était jamais venue à l'esprit. Et je trouve que c'est un moyen d'entrer dans les essais critiques que l'on, qui n'a jamais été fait. Et c'est un magnifique exemple de cette nécessité de problématiser. Et je dois dire que tous les contributeurs ont joué le jeu et avec plaisir. Bon, le contributeur est naturellement bavard. Et un grand travail quand on fait un dictionnaire, c'est de couper ou de négocier des coupes, hein, parce qu'ils voudraient tous écrire une encyclopédie. Voilà donc comment j'ai conçu les entrées. Hein. Je pourrais être plus précis si vous le souhaitez. Et puis, il y a un index. C'est le moment d'évoquer les index. Hein. J'aime bien l'expression, je ne l'ai jamais notée. C'est ce que j'ai appelé l'index des remords. Hein. C'est-à-dire, il y a deux index hein, qui m'ont permis de satisfaire un peu ma bonne conscience en donnant trace à des réalités, des mots, des noms propres qui n'ont pas donné lieu à des entrées. D'abord, premier index, un index des noms, qui permettait, si vous voulez, de retrouver un certain nombre de noms propres qui n'ont pas donné lieu à des entrées. Par exemple, il me paraissait difficile de faire une entrée Maria Cazares ou Gérard Philippe, c'était trop court. Il figure dans l'index des noms et il renvoie à une entrée acteur et théâtre, bien évidemment. On pourrait multiplier comme ça des exemples. Il n'a pas d'entrée Japon, puisqu'il y a une entrée l'Empire des signes, mais Japon est indexé dans l'index des notions pour qu'on puisse retrouver des références à Empire des signes, bien évidemment, et à théâtre, cela va de soi. Donc j'ai beaucoup hésité entre une entrée et une simple mention dans l'index. Alors je vous donne quelques fruits, quelques objets de mon hésitation. Protestantisme. Faut-il faire une entrée protestantisme ? Finalement, je ne l'ai pas faite. Elle renvoie à une entrée religion. On aurait pu avoir une entrée studium punctum. Elle n'est pas là. Elle renvoie à chambre claire une photographie. Une entrée biographème. J'ai hésité. Elle n'est pas là. Elle renvoie dans l'index à Sade Fourier-Loyola et Roland Barthes par Roland Barthes, etc., etc. Pour ne pas être trop long, je voudrais dire que cet index des remords m'a permis, j'avais d'abord pensé faire des entrées blanches avec simplement le nom et renvoyer à d'autres entrées. Non, je préférais faire un index, c'était plus clair. Ça m'a permis, disons, de donner le maximum d'ouverture possible sans surcharger le dictionnaire d'entrées pour qu'il ne fasse pas 2000 pages. Mais je vais conclure là-dessus. J'ai quand même un vrai remords dans ce dictionnaire et je m'en suis rendu compte après, une fois que c'était sorti, donc tout était joué, la messe était dite. C'est que je ne cesse de dire, nous ne cessons de dire que Barthes est un essayiste, est un écrivain, et qu'il a un style magnifique. Or, je dois dire que je l'ai intégré, enseigné, répété, écrit, mais paradoxalement, il n'y a pas d'entrée sur le style de Barthes. Il n'y a pas d'entrée sur Barthes écrivain abordé par la stylistique. Il y a une entrée adjectif, il y a une entrée phrase, il y a une entrée parenthèse d'objets qui sont des objets dont pourrait se charger un stylisticien. Mais c'est beaucoup plus le discours que Barthes tient sur l'adjectif, le discours que Barthes tient sur la phrase, que l'usage de l'adjectif chez Barthes, l'usage de la parenthèse chez Barthes, même si il y a un très bon article là-dessus, même si sur la phrase de Barthes, il y aurait pu y avoir un... Alors c'est ça mon vrai remords. Pourquoi est-ce que je n'ai pas poussé à faire des entrées sur la stylistique de Barthes, sur la pratique d'écriture de Barthes. Hein. Ça apparaît, mais de façon fugitive, de façon fantomatique, en filigrane, jamais de façon frontale. Alors, je ne sais pas trop quelle est la réponse. Hein. Je m'en suis rendu compte après. Mais moi qui cherchais comme un porc-épic à prendre mes distances, eh bien, je dois dire que là, je me suis fait avoir, hein, et que Barthes, se protégeant, ne parlant jamais de son écriture, hein, mais parlant de l'écriture des autres, eh bien, j'ai peut-être subi le vertige, hein, de l'aimantation ou de la fascination, et peut-être que ben, je n'ai pas trouvé sur ce plan-là ce que j'aurais dû trouver, c'est-à-dire, et ce sera le mot de la fin, la distance convenable. Ben, je ne l'ai pas trouvé.
Merci beaucoup, Claude, en tout cas, pour cette très belle présentation de ce travail dont on mesure l'ampleur, hein, à t'écouter. C'est vraiment très impressionnant, non sans culpabilité par rapport aux petits retards de rendu des entrées, de bibliographie incomplète à la fin. Enfin, c'est vrai que c'est un travail immense et que tu as présenté à la fois de manière concrète et par rapport à l'intention, mais aussi de manière extrêmement... Disons intellectuel, pardon, avec cette réflexion sur le mot et sur la place du mot dans la pensée de Barthes finalement et aussi dans son œuvre. Et ça, j'aimerais peut-être rebondir là-dessus. Alors, tu as parlé de regrets sur le style. Il faudrait que j'aie le dictionnaire parce que je me souviens plus. Il n'y a pas d'entrée biographique non plus.
Si, il y a une entrée biographique.
Parce qu'en fait, cette période romanesque, celle dans laquelle on pourrait identifier effectivement un style de Barthes, mais qui est aussi une période qui mêle de très près la vie et l'écriture. Et cette question, au fond, est passionnante parce que tout ce que tu as dit sur le mot au début, dans la partie vraiment, de réflexion intellectuelle de ta présentation, m'a fait naître une question sur celle de l'imaginaire, dans le sens où le mot, on se souvient, bon, c'est Saussure, tu l'as rappelé, mais Saussure, tu dis, c'est la phrase, mais il y a quand même aussi le triangle sémiotique, l'importance du signifiant et toute la dimension de la sémiologie liée au signifiant, qui est quand même le premier objet d'amour et d'étude de Barthes. Et puis il y a Lacan. On se souvient que dans la relation Lacan-Barthes un peu difficile, Lacan lui avait dit qu'il avait un très bel imaginaire, ce qui était un peu pernicieux et même vexant. Mais au fond, dans cette collection de mots qu'est le dictionnaire, qui portait à la fois, comme tu dis, sur l'œuvre et sur la vie, mais aussi sans doute avec l'entrée biographie et avec cette période romanesque qui est abordée forcément de biais en permanence, j'ai envie de te demander si un imaginaire naît de la lecture. Tu es le seul peut-être à avoir fait la lecture cursive du dictionnaire. Que je n'ai pas faite. Est-ce qu'il y aurait un imaginaire du dictionnaire, c'est-à-dire de ce Barthes-là que tu as réinventé, que tu as inventé dans une certaine mesure, avec un choix d'entrée, avec une nouvelle structuration de la manière de l'aborder, qui serait différent de celui du Roland Barthes, par exemple, ou qui émergerait tout simplement. Est-ce qu'il y aurait là une unité ou pas? En fait, est-ce qu'il y a une unité finalement?
C'est une question difficile. Je ne sais pas. Je vais simplement répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que il y a une unité, mais que j'ai construite avec et sans Barthes, avec et en grande fidélité et en grand amour de Barthes et avec distance. Voilà. Mais je n'ai pas de visibilité sur le résultat en quelque sorte, parce que ma relecture de tout était une relecture trop de myope en quelque
D'accord.
sorte. Tu vois. Je ne sais pas. Il émerge toujours. Un dictionnaire, c'est un ouvrage subjectif, une subjectivité collective, bien évidemment. Hein. Et j'ai encore beaucoup de mal à voir quel est ce qui domine en quelque sorte, ce qui domine. Et en tous les cas, une chose qui me fait, vous savez, quand il y a eu cette grande exposition à Beaubourg. sur fait par Nathalie Léger, en particulier sur Barthes. On a beaucoup reproché d'avoir monumentalisé Barthes, d'en avoir fait une institution. Alors ça, ce sont des surmois qui ne m'ont pas gêné du tout. Hein. Que l'on fasse de Barthes un monument, moi, ça me plaît. Hein, parce que les monuments, c'est beau, c'est intéressant. Je ne vois pas pourquoi on devrait avoir un discours anti-monumental sur Barthes. Un monument, on peut en faire ce qu'on veut aussi. Hein, on peut se promener à Versailles comme on veut. On n'est pas obligé d'être à genoux devant la façade. Donc, le caractère d'institutionnalisation de Barthes, ça ne me dérange pas du tout, parce que de toute façon, Barthes, c'est une institution. Il y a parfois un discours institutionnel de l'institution qui m'a toujours exaspéré. Assumons pleinement notre rôle institutionnel. Barthes est une institution. Et bien voilà, et ce dictionnaire témoigne de ça. Et une institution décomplexée, complètement. Hein. Je ne me suis pas demandé si j'allais le fossiliser, en faire. Pas du tout, ça ne me dérange pas du tout.
Mais je pensais, au contraire, je ne pensais pas du tout à ça, mais je pensais peut-être aussi par rapport au fait que le mot porte l'imaginaire. Bon, on pense à Proust, un nom de pays, le nom, etc. Le fait que ce soit quand même un patchwork ou une addition d'entrées par des mots. Qui chacun vont non pas figer justement, non. Mais créer quand même une sorte de diffusion imaginaire, de diffusion d'images ou de sens qui vont donner une nouvelle figure quand même.
Tout à fait.
Forcément.
Le mot chez Barthes, c'est un conducteur de rêverie et de pensée. Hein. Et il dit au fond, il n'aime pas la dissertation pour toutes sortes de côtés, mais pour toutes sortes de raisons. Mais il dit la dissertation, c'est une phrase. On demande de commenter une phrase. Il dit on ne commente pas une phrase, elle est achevée. En revanche, le mot n'est jamais achevé. Le mot est un départ de pensée, un départ de rêverie. Et en ce sens-là, c'est pour ça qu'il aimait tant les mots, hein, et avec leur histoire, leur étymologie, etc. etc. Voilà. Et puis, pour ce qui est du savoir, moi, je suis enseignant, je suis universitaire, j'ai pas honte de l'être, et j'ai toujours été exaspéré par les maîtres qui ne voulaient pas être des maîtres. Vous qui vous disiez, vous savez, dans mon amphi, je n'en sais pas plus que mes étudiants. Moi, ce qui me terrifie, ça, hein, parce que dans ces cas-là, j'appelle ça un imposteur. Hein. Si on n'en sait pas plus que ses étudiants, qu'est-ce qu'on fait là? Donc, je suis un homme de la diffusion du savoir, mais un savoir qui ne soit pas dogmatique. Et le dictionnaire est précisément un instrument d'un savoir libre, relativement libre.
Tu dirais que c'est peut-être le livre idéal sur Barthes
Je ne sais pas. Voilà, du moins. Et en plus, il y a toute une série de connexions qui
possible,
se jouent.
Même,
voilà. Enfin, moi, je suis très partisan d'une herméneutique. Hein, je trouve que notre travail, on en parlait tout à l'heure, hein, dans une conversation privée. Enfin, on a des conversations privées sur d'autres sujets que l'herméneutique, je veux dire, mais on en parlait entre nous, mais une herméneutique provisoire, enfin voilà. Voici ce que je vous propose, à vous de faire autre chose. Mais osons proposer, voilà. Et le dictionnaire, c'est à la fois la conjonction d'entrées très achevées, parce qu'elles sont très écrites, elles sont très élaborées. Il n'y a quasiment eu aucune mauvaise entrée, si vous voulez. Hein. Elles ont toutes été bonnes, très fignolées, hein, et en même temps, c'est dans un ensemble qui ne contraint pas et qui laisse une grande liberté au lecteur. Voilà. Même si je ne suis pas... par exemple, moi, je suis séduit quand une entrée est très problématisée, même quand je ne suis pas d'accord avec la problématique. Parce que la pensée, une vraie pensée permet de penser. Je pense que c'est une banalité de dire
non,
ça, mais quand les gens pensent, ils ne sont jamais dogmatiques. Et en ce sens-là, je ne suis pas cartésien. Une vraie pensée n'est jamais dogmatique.
Peut-être pour t'écouter beaucoup sur le lancement, effectivement, Barthes, un homme du mot valeur, du mot qui essaime, du mot qui possède son image et qui fait rêver. J'étais aussi frappé en réfléchissant par la manière, presque l'obsession de Barthes à se situer en permanence hors dictionnaire, hors du dictionnaire français ou des mots communs ou des mots de la tribu, et d'inventer son propre dictionnaire théorique. Et souvent en dehors de la langue française ou en dehors de la typographie et de la graphie habituelle du français. Et ce qui fait qu'il devient un dictionnaire à lui-même. Et c'est pour ça qu'il a toujours été ventriloqué, imité, pastiché, à tel point que son vivant, il y a eu un dictionnaire sur Roland Barthes, par Burnier et Rambaud, qui nous apprenait à parler de Roland Barthes. Preuve à l'appui qu'il était un homme dictionnaire avec sa langue à lui. Et il allait chercher, effectivement, et c'est pour ça que Barthes est un être de citabilité, ou qu'il est si facilement ventriloquable, cité tous les jours à la radio, pour un mot-clé, et souvent hors du dictionnaire. C'est ça qui m'intéresse. Studium, punctum, tous les jours, le wu-wei, il a cherché dans les langues étrangères, le satori, et puis sinon des concepts mots, à travers des mots composés, le non-vouloir saisir, le je t'aime qui est décrit en un mot, le ça a été que tu as répété. Donc voilà, j'étais me posais la question d'un homme qui ça fera fasciné par les mots valeurs, et par son obsession aussi à inventer un lexique qui est presque hors dictionnaire.
Tout à fait.
Donc comment tu...
Ben, c'est fondamental chez Barthes. On a besoin du code pour se libérer. Voilà. Et le dictionnaire, c'est le code. Hein, le dictionnaire de langue française, le dictionnaire... On a besoin du code.
Mais nous-mêmes, nous ne libérons pas du code qu'il a inventé.
Ah ben, justement, à nous de nous libérer du code qu'il a inventé. C'est toute la problématique
de toute façon, il y a une mise en abîme, puisque le mot fascisme qui réfère à ce code est en même temps utilisé par lui comme, presque comme un mot étranger, puisqu'il ne l'utilise pas au sens... doxal et qui se moque même de ce sens doxal.
Bien sûr, heureusement.
Il est toujours dans une réflexivité par rapport à ce... Et c'est vrai que c'est très intéressant.
Non, là, la nécessité du code pour pouvoir exister. Ça, c'est fondamental chez Barthes. Hein. C'est pas un révolté, c'est pas tabula rasa, pas du tout. C'est pas l'homme de la tabula rasa. Hein. C'est au contraire, c'est pas du passé faisant tabula rasa, c'est du passé et du présent et de tous les codes qui nous entourent. Acceptons-les parce qu'ils sont là, mais libérons-nous par rapport à eux au sein de leur propre existence. D'où son dictionnaire dans le dictionnaire.
Oui, c'est ça. Voilà.
Il retrouve le grec et le latin dans un dictionnaire français.
D'ailleurs, tu n'as pas fait d'entrée dictionnaire.
Alors, je n'ai pas fait d'entrée dictionnaire parce que ma préface...
Oui, il tient beaucoup le travers dictionnaire, effectivement. Voilà. Oui.
C'est la préface qui porte sur le dictionnaire.
C'est la raison. C'est la raison. Tu insistes beaucoup sur la manière de commencer un dictionnaire, quelles sont les raisons qui t'y ont amené. Alors, la question toute bête pour rentrer dans la fabrique, c'est quand est-ce qu'on décide d'arrêter un dictionnaire? Quand est-ce qu'il s'arrête? Comment on négocie la marge de,
quand, on
de
arrive,
la case vide?
On n'arrive plus à échapper à l'éditeur qui vous taraude, là, qui vous dit qu'il serait peut-être temps de terminer.
Mais tu arrives à 350 entrépides quand même.
Oui, je sais.
Ne relève pas du hasard.
Non, alors ça, c'est, mais ce n'est pas de ma volonté consciente en tous les cas. Et bon, je n'ai pas toujours mis assez de pression sur les collaborateurs pour qu'ils rendent leurs travaux à temps. Les gens ont pris du temps. Il y a eu des défections. Il y a eu des défections qui m'ont... Là, c'est un peu embêtant. Je ne parle pas de défections par maladie. Tout est excusable. Bon, il y a eu des choses... Bon, bref.
Et comment on affronte la question là-dessus? Et comment on affronte le manque possible, sachant que Barthes est connu pour être un auteur posthume, c'est-à-dire qu'il vit... il vit de sa postérité et des éditions, des archives, des cours inédits, et que finalement, quand on s'adonne à un objet de canonisation comme un dictionnaire, on s'affronte forcément à un nouveau dictionnaire de Barthes à naître.
Tout à fait. Et la décision que l'on prend, on dit, ben voilà, arbitrairement, je décide de m'arrêter à cette date, et tout ce qui paraîtra après n'existe pas. C'est comme quand on fait une thèse sur un auteur vivant.
C'est ça.
On décide, voilà, je m'arrêterai à cette date. Après, il aura beau écrire tout le contraire de ce que je voudrais qu'il écrive, tant pis. Il faut s'arrêter à un moment. Hein, voilà. Puis le dictionnaire, à mon avis, il n'y aura pas un dictionnaire Barthes avant pas mal d'années, mais il n'est pas immortel, il y aura d'autres choses après.
Ah, hein. Non, il a appelé aussi à des formes de continuité possibles sur d'autres supports.
Enfin, ça, quand on passera en format de poche, il y aura des choses qui vont être changées, par exemple. Il y a des erreurs qui ont été commises, que j'ai laissé passer, que j'ai écrites moi-même. Enfin, il y a des fautes de frappe. Enfin, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même. Et donc, tout ça est à corriger. Work in progress. Voilà.
Et qu'est-ce que tu aurais aimé, puisque c'est ton regret, peut-être avant de passer là, que contienne cette entrée style de Barthes?
Quand on parle de la phrase chez Barthes, on parle de l'emploi de l'adjectif chez Barthes.
Mais est-ce que pour toi, c'est unifié, il a un style unifié, ou bien parce qu'il me semble qu'il y a des périodes quand même un peu différentes. Et non, mais je me demandais simplement, de quelle manière tu voulais l'aborder, stylisticien, structural.
Tout est possible.
Rhétorique.
Et rhétorique aussi, la métaphore chez Barthes, par exemple. Hein, il aurait pu y avoir des travaux là-dessus.
En gros, ma question était. Y a-t-il un style de Barthes?
Ou des styles, en tout cas. Il y a un chapitre important de Julien Piat dans le travail sur les... l'ouvrage qu'a dirigé Gilles Philippe avec lui. Hein. Il y a un chapitre l'écriture intellectuelle des années 70 chez Barthes.
Par la grammaire.
Oui, par la grammaire.